à tous et bienvenue dans cette grande table du mercredi. La langue peut-elle vraiment être sexiste dans le féminin et masculin dans la langue? Réflexion autour de l'écriture inclusive. Ils interrogent l'évolution des usages et notre besoin de normes. La linguiste Danielle Manès et l'historien du français Gilles Siouffi seront nos invités après le journal de Thomas Cluzel. Mais d'abord, le requiem d'Alain Cavalier. 2 ans après la mort de la scénariste et romancière Emmanuelle Bernheim, il lui adresse cette prière, son film hommage à une femme et même deux qu'il a beaucoup aimé. Être vivant et le savoir sort en salle aujourd'hui. À cette occasion, le réalisateur de Pater, Irène ou encore 6 portraits XL est notre invité à écouter sur France Culture jusqu'à 12h30.
La grande table. Olivia Gesbert.
À la manière de Faulkner, Être vivant et le savoir, ils avaient ensemble un projet d'adaptation de son livre à elle, Tout s'est bien passé, sur les derniers jours de son père, encore à elle. Mais alors que le film se dessine, la scénariste apprend qu'elle a un cancer, le tournage est retardé, puis ajourné, abandonné par la force des choses. La maladie ne la quittera plus.
Alors, ils ne vous ont pas dit si vous faisiez une chimio ou pas? À la fin du mois. C'est un petit incident de parcours qui est mais pas une seconde. Pas une seconde, et je vois pas pourquoi on s'inquiéterait. Hein? Qu'on tourne maintenant ou qu'on tourne dans quelques mois, quelle est la différence? Moi, je serai un autre dans 3 ou 4 mois, je ferai pas le même film. C'est tout ce que je peux dire, hein? Et puis c'est tout. Et vous non plus, c'est ça qui est merveilleux. On fera le film avec ce qu'on est au moment où on tournera, hein? Voilà. Bon, écoutez, mademoiselle Bernheim, hein? Que la grâce descende sur vous. Voilà. Voilà. Hein? Tout est bien. Voilà. Eh bien, à tout de suite. À tout de suite.
Elle est ce petit filet de voix qui parle avec vous, Alain Cavalier. Bonjour.
Bonjour.
Pas
bonjour.
Une seconde, je ne vois pas pourquoi on s'inquiéterait. C'était un joli mensonge, un beau mensonge. Et la vie a besoin de beaux mensonges, non?
Un beau mensonge, c'est-à-dire qu'on ferait le film quand même.
En réalité, vous êtes terriblement inquiet sur le moment déjà.
Et c'est la première alerte. Elle m'a téléphoné en janvier, elle m'a dit qu'elle avait un cancer du sein. Et bon, il y a aujourd'hui 85% quand même des cancers du sein qui sont guéris. Alors on retardait simplement le film, c'était un peu rude. Et puis surtout que c'était elle qui était qui risquait. Et puis, elle était sur la voie de la guérison. Et 6 mois après, on s'est remis à préparer le film. Et même coup de téléphone, du sein s'était passé au poumon. Voilà. Donc, retard encore. Ça a duré 1 an et demi. Et puis après, vous connaissez la fatalité. Après, ça passe. Alors, au poumon, ce n'était pas opérable parce que c'était près du cœur. Et puis après, ça passe au foie. Et un jour, je l'ai vue chez elle. Et elle était en face de moi. Et elle a mis son doigt sur sa tempe, comme ça, elle m'a bien regardé. Elle m'a dit, maintenant, c'est là. C'était dans son cerveau, donc c'était la fin.
Et vous, Alain Cavalier, dans ces moments-là, vous échangez beaucoup avec elle. Est-ce que vous vous sentez aussi un peu comme un médecin de l'âme, quand on peut rien faire, rien changer au corps, à ce qui lui arrive? Est-ce qu'on peut, par contre, adoucir les pensées?
Je lui disais toujours qu'elle pouvait m'appeler à n'importe quelle heure, que j'étais à sa disposition. C'est tout ce que je pouvais faire. Je ne l'avais pas. J'ai cessé de la filmer quand elle est tombée sérieusement malade. C'est-à-dire, je n'ai pas voulu la filmer dans ces derniers mois. Hein. Et j'allais la voir toujours sans caméra. Parce que je ne voulais pas qu'elle me dise, si vous voulez me filmer, filmez-moi. hein, pour me faire plaisir, ou qu'elle me dise pas non plus, oh, j'aimerais bien que vous, pourquoi, filmez-moi. Voilà, j'existe, là, je filme bien, j'ai des choses à vous dire. Je pouvais pas. Alors, je l'ai filmé jusqu'au moment où je croyais qu'elle s'en sortirait et que le film vivrait. Voilà.
Pourquoi d'ailleurs, ça ne vous aurait pas fait plaisir si elle vous avait demandé de la filmer?
Écoutez, c'est des problèmes. Je voulais conserver d'elle quelque chose de fort et de vivant. Et c'était comme ça que je survis aussi à sa disparition. Voilà.
Alain Cavalier, vous êtes un homme d'image, mais vous êtes aussi un homme de mots. Est-ce que vous avez écrit ce matin?
Ah, ce matin, non. Parce que je suis allé présenter le film à Tours, je me suis réveillé dans mon hôtel ce matin, et il y avait dans le coin, c'était mansardé, un petit fauteuil crapaud, parce que ma mère adorait les fauteuils crapauds. Alors j'ai filmé ce fauteuil crapaud. Je ne l'ai pas écrit, puisque c'était plus facile de le filmer. Je suis rentré à Paris par le train, j'ai filmé deux ou trois choses dans le train, en particulier un type qui tapotait sur son... Parce qu'on ne voit que des hommes qui travaillent dans le train. Maintenant, tout le monde travaille dans le train. Mais on ne travaillait pas dans le train.
On regarde des films. Hein, les gens regardent beaucoup de films maintenant.
Ils regardent des films. Ou alors, il y a des chiffres sur leurs écrans, comme ça, qui se baladent. Le train n'est plus une distraction et un plaisir.
On appelle ça les vies SNCF. Celles des gens qui passent beaucoup de temps dans le train, chaque jour.
Oui, Tours, ils font Tours Paris. Tours, Vendôme, Paris. Je suis passé par ma ville natale, Vendôme.
Alors ces images que vous avez prises, filmées ce matin, que vous avez tournées, ce fauteuil grenouille crapaud
recouvert comme chez ma mère, d'un tissu, ce qu'on appelait un tissu d'ameublement avec des fleurs,
Mais vous savez ce que vous en ferez de ces images?
J'en sais rien du tout. Pour le plaisir de filmer ça, parce que je filme avec mes yeux, mais là je m'arrête tout d'un coup sur quelque chose qui me plaît plus que l'ensemble, et je sors ma caméra, je filme, et puis je ne pense pas une seconde que ça va être utilisé. Là. J'ai des milliers d'heures stockées, mais je les ai tournées par plaisir. Et non seulement c'est du plaisir, mais ça rend encore ce fauteuil plus plaisant de le filmer. Au moment où je le filme, il est magnifique. Si je le regardais simplement sans le filmer, il serait marrant, pas trop mal. Voilà.
C'est étonnant comme métamorphose ou comme processus de transformation.
Je crois que c'est une déformation professionnelle.
C'est ça.
Voilà.
Déformation professionnelle, Alain Cavalier, profession filmeur. Depuis les années 2000, vos films sont des journaux intimes comme celui d'Irène, votre journal papier, titré 1971 de l'année où vous l'avez rédigé, que vous posez d'ailleurs sur la flamme d'un but à gaz de camping pour tenter de le transpercer. Déjà là, vous racontiez que ce journal restait toute la journée sur votre bureau, si bien qu'Irène, votre compagne, votre femme, pouvait à tout moment aller voir dedans. Et vos films sortent en salle, et votre intimité sort en salle. Pourquoi la mettre en partage?
Écoutez, là c'est un cas très, très particulier de persistance sentimentale. C'est qu'elle était morte depuis 40 ans, et je la voyais tout le temps. C'est-à-dire que je lui parlais, elle entrait dans la pièce, et comme on m'avait demandé, au moment où elle était morte à l'hôpital, de la reconnaître pour pouvoir la mettre en bière, comme c'est légal de le faire, j'avais envoyé mon frère, je lui ai dit, écoute, essaye, parce que je ne veux pas la voir morte. Et ne l'ayant pas vue morte, elle est restée vivante pendant des années et des années. Et je me suis dit un jour, je lui ai dit même, écoute, je vais faire un film sur toi, voilà, et puis tu m'aideras à le faire. Et en fait, elle m'a donné un coup de main, j'ai fait un film sur elle.
Mais c'est,
avec elle.
C'est Irène.
Et il s'appelle
mais c'est
Irène.
Aujourd'hui Emmanuel. C'est aussi un peu Anne, à qui vous allez rendre visite au début de ce film, Être vivant et le savoir, à
oui.
Genève. Elle a décidé, elle aussi, elle avait un cancer.
Je l'ai connue quand on était très très jeune. Elle avait 14 ans et moi 16 ans.
Femme extrêmement belle, vous avez une photo d'elle.
Et elle a décidé, un jour, elle souffrait d'un... Et de partir, mais avec beaucoup, beaucoup d'allure et beaucoup de conviction, et sans le moindre pathos et sans la moindre tristesse, elle est partie. Je suis allé la voir avant. Ouais.
Elle a décidé de passer de l'autre côté. Elle est en Suisse. Elle peut là-bas boire la potion magique.
Alors là-bas, c'est très simple. Il faut que vous ayez toute votre tête. C'est vous-même qui introduisez la potion fatale dans votre sang. devant un juge, un commissaire et un médecin. C'est-à-dire que c'est fait avec... Et elle est partie, mais vraiment avec une... Je ne sais pas là, mais on m'a raconté. Je ne dis pas avec aisance, mais bien.
Et vous actez votre propre fragilité devant sa fin à elle, et vous vous montrez tout au long de ce film, non pas face caméra, mais dans toute votre fragilité, effectivement, dans vos doutes, dans ce trouble que la maladie ou la mort peut provoquer en vous. Qu'est-ce qui vous semblerait impudique aujourd'hui de montrer à l'écran, Alain Cavalier ?
De montrer en général à l'écran ? Écoutez, je trouve le cinéma d'une pudeur absolument désolante. C'est-à-dire que le cinéma, dans toute la vie humaine, il y a des zones parfaitement interdites à la caméra. Je le sais, puisque je pratique... Je pense à la vie très personnelle, très intime d'un couple. Et je souhaiterais un jour voir un film tourné par de jeunes personnes très sympathiques, cinéastes, très bons cinéastes, et qui racontent toute leur vie, de A jusqu'à Z. Hein ? On serait très surpris hein, de la différence qu'il y a avec les mimiques des acteurs hein, qu'on nous impose depuis 120 ans sur les écrans. Hein, ça, c'est une chose. En ce qui concerne le pouvoir et le pouvoir qui nous façonne tous les jours, les décisions qui sont prises, les portes sont toujours fermées aux caméras, ça, etc., etc., etc. Alors nous, on se contente de ce qu'on peut toucher, hein, ce qu'on nous permet de filmer. C'est déjà pas mal, hein, mais à côté de la vie totale, c'est rien.
Et vous aimeriez pousser ces portes ? Ce serait impudique, mais nécessaire ? Celle des lieux de décision ?
Non.
Celle de la vie d'un couple ?
Non, c'est que ça viendrait... Vous savez, moi qui suis un grand amateur des confessions de Jean-Jacques Rousseau, elle date du XVIIIe siècle, et personne ne l'avait fait avant de raconter exactement comment sa vie s'était passée, hein ? Ni dans l'Antiquité, ni il y a 3000 ans, ni il y a 10 000 ans. Donc un jour, ça arrive. Puisqu'on peut l'imaginer, donc ça arrivera un jour.
Une fois encore, être vivant et le savoir est une forme de journal intime, filmé, le vôtre, votre caméra, et elle ne prétend pas l'être, est subjective, enfin n'est pas objective, elle est subjective, elle ne prétend pas le contraire. Mais elle est aussi suggestive, c'est-à-dire que vous nous montrez ou donnez à entendre des choses qu'on ne voit pas directement à l'image. Vos plus belles rencontres, pourquoi vous avez toujours choisi, désiré, les filmer ? Désirer, c'est mieux, non, parce que c'est plutôt de l'ordre du désir ce qui se joue en vous.
J'ai commencé dès que les ingénieurs japonais m'ont offert une caméra maniable, pas chère, où je pouvais tourner seul, sans équipe et sans argent. Hein, eh bien, je me suis trouvé rencontrant une personne assez tard dans ma vie, essayant de vivre avec elle, et elle revient du marché avec une dorade magnifique. Et je la filme et je lui dis « Combien l'as-tu payé ?» Et ben c'est le début d'un film sur mes débuts avec elle. Et j'ai continué à filmer. Puis un jour, je me suis rendu compte que je racontais une histoire. Et je l'ai montré au public. Voilà.
Documenter votre propre vie. On se souvient d'Agnès Varda se filmant aussi les mains dans les glaneurs et les glaneuses.
Non, non, ce n'est pas ô rage, non, ce n'est pas ô désespoir, ce n'est pas ô vieillesse ennemie. Ce serait peut-être même vieillesse amie, mais tout de même, il y a mes cheveux et mes mains qui me disent que c'est bientôt la fin.
Et puis ma main en détail. C'est-à-dire, c'est ça mon projet. Filmer d'une main mon autre main. Rentrer dans l'horreur. Je trouve ça extraordinaire. J'ai l'impression que je suis une bête. C'est pire, je suis une bête que je ne connais pas. Et voilà l'autoportrait de Rembrandt. Mais c'est la même chose en fait. C'est toujours un autoportrait.
La glaneuse Agnès Varda et vous, Alain Cavalier. On boucle dans le studio, vous entendez ce son? Je ne sais pas, moi je l'entends en tout cas. Peut-être c'est que moi dans mon casque. Pourquoi vous filmez vos mains, Alain Cavalier?
C'est parce que c'est très difficile de filmer et parce que soi-même, parce qu'on ne peut se voir que dans le reflet de la glace. Alors, plus facile, de temps en temps, on introduit sa main pour... Et le spectateur a l'impression que la caméra est tenue par une personne qu'il connaît, hein, et voit le film un peu à travers son regard. Et peut-être que ça lui donne une idée de un jour de filmer ou de redécouvrir ce qu'il voit chez lui et que ça n'atteint pas sa conscience que c'est pas si mal que ça quand même, hein, c'est pas si mal que ça.
Et quand vous voyez vos mains, qu'est-ce que vous vous dites? Depuis le temps que vous les filmez.
C'est-à-dire que si je filme mes mains, c'est pas pour faire une réflexion sur la vieillesse que Agnès fait parfaitement bien, mais c'est dans une action, hein. Je prends quelque chose parce que je peux pas faire autrement, mais c'est jamais pour en tirer une réflexion sur l'âge ou la philosophie ou sur le. C'est actif.
Film après film, Alain Cavalier, vous cherchez à comprendre la douleur, la mort, le deuil, la disparition. Depuis Liberamé en 93, vous cherchez à percer ce mystère. Est-ce qu'on peut jamais cesser pour autant, même en comprenant un tout petit peu plus, d'avoir peur de la mort?
Non, peur non, mais il faut... Le cinéma m'aide. Le cinéma m'aide énormément. D'abord, la caméra me protège vraiment de la réalité. Je me suis cassé la gueule plusieurs fois et je suis tombé. Et la caméra m'a pro... Je ne me suis pas fracassé le crâne, en fait. Voilà. Et puis, ce que je filme, c'est parce que je trouve la vie formidable. Hein. Donc, j'en garde une trace. Voilà, c'est comme ça que... Et l'usure... Le temps qui passe, la maladie, la souffrance, ça fait partie de tout le monde, les bêtes, les objets, les légumes, le temps qui fait, ça fait partie du quotidien depuis que je suis né. Alors je vais pas commencer à dire que c'est terrifiant ou quoi que ce soit, c'est d'une banalité que je voudrais exquise et quotidienne comme ça, voilà, on vit, on meurt, on vit, on meurt, et un jour on meurt tout court et puis c'est fini.
On a l'impression que vous avez quand même, à force de vous y confronter, une science en vous sur cette question que nous, on n'a pas. Comment vous l'avez appréhendée? Qu'avez-vous appris d'elle à force de la rencontrer dans Être vivant et le savoir? Il y a un film dans le film, ce film qui n'a pas eu lieu, où vous auriez interprété le père d'Emmanuel Bernheim, victime d'un AVC, hein, voulant lui aussi écourter sa vie, envisageant le suicide assisté. Vous répétez votre rôle sur un lit. Allongé, articulation difficile, son père était hémiplégique.
Dans le livre de Manuel, ce qui est intéressant, c'est que il joue à la bourse, alors il a une zapette, et alors il y a les émissions sur la bourse, et il zappe. Et puis, un jour, elle l'a vu, il tenait la zapette à la main, il l'a acheté sur le lit. Il a dit, ça m'intéresse plus. Là, elle a su que il était prêt à partir et qu'elle pouvait l'aider. Alors moi, je tiendrai encore une caméra, ma main valide. Je pourrais me filmer Emmanuel, filmer ma fille. Hein. Et puis à un moment, je la jetterai sur le lit et je dirai, oh non, ça ne m'intéresse plus, non.
Voilà, mais ce moment n'est pas arrivé.
Et je suis pas encore là parce que je pense que j'adorerais filmer mes doigts de pied au moment où je passe. Donc je ne suis pas encore à jeter la caméra, hein, avant de passer.
Là, vous pensez encore à tout ce qui vous reste à faire. C'était un exercice de disparition et vous le dites, ça fait quand même du bien de revenir. Ça fait du bien encore d'être là. Et d'ailleurs, c'est vrai, la mort, elle a pas de visage. On peut pas la filmer. La vie, si, par contre. Et dans ce film, elle prend souvent, parfois, le visage d'Emmanuel Bernheim que vous suivez. Les réflexions métaphysiques de Catherine Deneuve à Michel Piccoli dans La Chamade. Vous vous souvenez de ce qu'elle lui dit? Charles, j'ai peur de passer à côté de la vie. Enfin, de ce que les gens appellent la vie. Qu'est-ce que c'est la vie pour vous, Alain Cavalier?
J'en sais rien. Je bricole. Hein. Je bricole. Et j'ai eu la chance de d'avoir une petite à cause des grands visages de femmes quand j'étais enfant, qui me fascinaient quand j'allais au cinéma, être attiré par le cinéma, et de n'avoir eu qu'une obsession, c'est de mettre un plan derrière l'autre et de filmer la vie. Alors, je pense que je suis passé à côté de 1000 choses, mais qu'en même temps, ça m'a fait une petite structure qui m'a empêché de verser à droite et à gauche dans des trous noirs. Hein, voilà. Je suis un grand chansard.
Donc vous avez été heureux, parce que c'est la réponse que Charles-Michel Piccoli fait dans la chamade à Catherine Deneuve. Il lui répond que rien n'est indispensable, ni la passion, ni gagner sa vie, ni travailler pour exister. Ce qui est important, c'est d'être heureux.
Oui, ben, je pourrais dire la même chose, mais l'important, c'est de faire quelques plans tous les jours. C'est pas de gagner de l'argent, parce que j'en ai pas gagné. C'est pas d'être heureux, parce que ça ne rend pas tous les jours heureux, hein. C'est pas d'être reconnu, parce que, il y a des hauts et des bas, hein. On vous monte, puis on vous laisse tomber. Non, c'est simplement, avoir cette curiosité de reproduire la vie, et merci, hein, d'avoir reçu ça du ciel.
Est-ce que vous y voyez presque une danse? Ce sont les mots qu'emploie, et je voulais juste vous faire entendre encore ce dernier témoignage. Le filmeur Jonas Mekas, figure du cinéma underground, ami de Andy Warhol, qui est décédé en janvier dernier.
Mais moi, je filme la vie autour de moi. Je ne recherche pas l'angle parfait. La méthode n'est pas la même. Mais parfois, je considère que je filme comme le ferait un anthropologue. Je filme ce qu'il y a devant moi. Cela dit, il y a des exceptions. Imaginons qu'il se passe quelque chose. J'ai l'impression que parfois, je danse avec l'événement. Donc, il y a une espèce de chant, de poésie.
I don't know for what reason, but I have to film it. I have to.
Je ne m'explique pas toujours pourquoi, mais il y a des choses que je dois filmer avec ma caméra. Je sens qu'il faut que je filme ce moment.
So it's so different from, you know, having a script and actors.
C'est différent du travail qui consiste à avoir un scénario, des comédiens, faire plusieurs prises, choisir l'emplacement de la caméra, les différents angles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'angle qui vous force à regarder la réalité.
Est-ce que vous dansez comme lui avec la vie, Alain Cavalier, avec votre caméra et avec la vie?
Je sais que quand je rentre dans une pièce, hein, ou quand je suis en face d'une personne, je me mets toujours dans un endroit où je pourrais filmer. C'est-à-dire qu'il me plaît, humainement qu'il me plaît, et que je pourrais filmer. Et quand je suis au restaurant en face de quelqu'un, je me déplace quelquefois pour l'avoir plutôt de trois quarts face que de face. Ça dépend du visage. Je suis toujours dans une position où je suis à l'aise dans la vie et cinématographiquement mêlé. Voilà.
Emmanuel Bernheim, dans ce film, à un moment, vous la filmez de face.
Oui. Hein,
et
oui,
même
oui.
De plein pied. Vous voulez avoir ses pieds. Ça vous dérange de ne pas les avoir.
Ouais. Je voulais garder l'aile des chaussures. Parce qu'en général, je suis assez serré sur la réalité. Et là, je voulais un peu d'air autour d'elle. Je lui dis d'ailleurs que je filme ses chaussures et jusque ses cheveux.
Vous disiez que vous aimiez filmer les femmes. Elle était belle, Emmanuel Bernheim. Dans votre caméra aussi?
Ben, c'est-à-dire que les cinéastes s'entendent mieux avec les femmes qu'avec les hommes. Et les femmes participent plus à la détente des rapports. Les hommes arrivent toujours un petit peu raides. Ils ont toujours quelque chose à un orgueil, hein, d'être au mieux d'eux-mêmes. Et puis des choses à cacher aussi. Des petits défauts physiques ou de pas avoir l'air ceci ou cela. Il y a une complicité, une familiarité avec les femmes, avec les comédiennes. Je parle avec les comédiennes. Hein. Je parle pas avec les personnes que je filme maintenant dans la vie, mais avec les comédiennes. Parce que ça, les rapports des cinéastes avec les comédiennes, c'est une merveille absolue. fait de choses souvent non dites et extrêmement secrètes.
Vous avez beaucoup triché au montage. Il semblerait qu'il n'ait pas été si facile à monter ce
tricher,
film. Tricher, vous avez le droit de tricher.
Non.
Vous avez été fidèle, cherchez à être fidèle à qui, à quoi, à quelle vérité?
Non pas à une vérité absolue que je pense qu'il n'existe pas, que je ne peux pas en tout cas saisir, mais à ce que je ressentais personnellement. Et comme je filmais sur le moment où ça se passait, où ça arrivait, donc je suis complètement dans l'événement. Donc je veux dire, je suis moi-même, en principe je ne triche pas, en principe.
Il faut que je vous avoue quelque chose avant la fin de cette rencontre. Je partage pas du tout votre intérêt devant les courges. D'où ça vous vient?
Vous trouvez ça affreux, les courges?
Oui, pas encore pire quand elles moisissent.
Alors je peux pas vous expliquer. J'ai un légumier qui vend des courges. Il y a 15 ans que je lui achète des courges. Je lui parle des courges, comment elles vieillissent. D'abord, j'aime beaucoup les courges en tant que sculpture, quand elles sont neuves, et la façon dont elles se rident, dont elles s'affaissent, dont elles se transforment, me fascine totalement parce que chacune vieillit à sa façon. Il y en a qui font des sculptures magnifiques en vieillissant, successives, des sculptures successives, et d'autres qui sont totalement misérables. Voilà. Et c'est ma passion d'en suivre le cours sur des mois. Et des mois.
Oh mon Dieu.
Et je finis par les filmer et les introduire dans mon film, effectivement.
Merci Alain Cavallier. Vous dire quand même une chose encore, que le festival Côté Court à Pantin s'ouvre aujourd'hui jusqu'au 15 juin avec des projections à foison, des films en compétition et des rencontres avec des réalisateurs et des metteurs en scène qu'on aime bien, Pascal Rambert, Bertrand Mondico, Olivia Sayas et Yann Gonzalez. Ces formats courts que vous avez vous aussi expérimenté, Alain Cavallier, et notamment dans les 24 portraits qui ont fait votre renommée. Merci beaucoup à vous d'avoir été autour de cette grande table. Je rappelle que votre film sort aujourd'hui, il s'intitule « Être vivant et le savoir ». ».